Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Planète Étincelle, votre rendez-vous scientifique du premier mardi du mois à 17h10. Ça y est, l'an 2007 est arrivé. Ne le cachons pas, cette nouvelle année est toute tournée vers les élections présidentielles et les médias se préoccupent avec plus d'assiduité de l'avenir du globe. L'écologie est sur toutes les lèvres. Et sur La Planète Étincelle, nous allons nous aussi, hors des débats politiques, nous intéresser à l'avenir de la Terre. À quoi va ressembler notre monde en 2007 ? À quoi va-t-il ressembler dans les années à venir ? À l'antenne, vous entendrez comme toujours la douce voix de Delphine Gomez. Et pour l'occasion, Pedro Lima, notre journaliste envoyé spécial en Amérique latine, sera présent en direct du studio marseillais au micro d'Étincelle et se préoccupera pour changer des événements des 5 continents.
Une émission qui vous sera présentée, comme à son habitude, par Magali Volpes.
La première actualité est internationale. L'année 2007 sera une année polaire. La seconde est interplanétaire. Et si demain, la planète Terre était vouée à être détruite, où irions-nous ? La revue de presse brossera ensuite, comme toujours, l'actualité du territoire mondial. Puis la chronique du mois sera un science pratique, où Delphine nous donnera quelques éléments pour construire notre propre fusée. Nous finirons bien sûr avec des brèves de l'hémisphère sud, avec entre autres Cuba, qui pourrait devenir un modèle scientifique pour le continent sud-américain. Planète Étincelle, c'est parti. Alors pour démarrer, direction le grand froid des pôles, Pedro. Alors, quand la planète se regarde dans la glace, qu'est-ce que cela donne d'après vous ?
Ça donne l'API pour les intimes. Entendez par là l'année polaire internationale. De quoi s'agit-il en fait, Pedro ?
Eh bien, Delphine et Magali, pendant un an, à partir du 1er mars prochain, des centaines de programmes de recherche internationaux seront menés dans les deux régions polaires du globe, tu l'as dit, Arctique pour le pôle Nord et Antarctique pour le pôle Sud. Alors, pourquoi se préoccuper de ces deux régions polaires, eh bien, ces études permettront essentiellement de mieux comprendre les grands équilibres climatiques de la planète, c'est donc très important, et en particulier les effets du réchauffement. Ces deux régions, par les équilibres physiques fragiles qui les caractérisent, sont en effet tout particulièrement sensibles aux variations globales et peuvent donc entraîner des réactions en chaîne climatiques tout à fait imprévisibles du fait des masses gigantesques d'eau et de gaz qu'elles retiennent sous forme de banquises essentiellement.
Et tout au sud, en Antarctique, deux pays sont déjà particulièrement sensibilisés à l'année polaire.
En effet, ce sont le Chili et l'Argentine qui sont les pays les plus proches géographiquement du continent antarctique, au pôle sud donc. Et ces deux pays comptent bien mettre à profit cet événement international pour réaffirmer tout d'abord leur souveraineté, toujours discutée sur les régions polaires qu'ils revendiquent. Mais surtout, ces deux nations vont tenter de répondre à des questions scientifiques cruciales pour l'avenir de la planète. Ainsi, les chercheurs vont étudier dans les eaux glacées du détroit de Drake, à la pointe sud de l'Amérique, le méthane des profondeurs, une véritable bombe à retardement climatique, Delphine. En effet, des milliers de tonnes de méthane naturel sont posées sur les fonds marins sous forme solide. Or, lorsqu'il se transforme en gaz, ce méthane remonte à la surface et rejoint ainsi l'atmosphère, acquérant alors un pouvoir de génération d'effet de serre et donc de réchauffement climatique 4 fois supérieur au CO2. Il est donc vital de bien connaître les conditions dans lesquelles le méthane solide des fonds marins se transforme en gaz pour contrôler au mieux à l'avenir ce phénomène.
Et je crois que les chercheurs vont également étudier un glacier vraiment sous toutes ses coutures.
Oui Magali, dans la baie du Diable, sur l'île de la Vega, les scientifiques argentins essentiellement vont en effet analyser un tout petit glacier d'une centaine de mètres de long tout de même, avec l'objectif de constituer un modèle global des effets du réchauffement sur la fonte des glaces. Ce glacier pilote, en quelque sorte, sera étudié par des mesures directes et des images satellitaires. Il permettra peut-être de trancher le débat entre ceux qui affirment que la fonte des glaciers polaires sera entièrement achevée d'ici le milieu du siècle, l'option pessimiste on va dire, et ceux plus optimistes qui prévoient que les glaces sauront résister à la montée des températures pendant beaucoup plus de temps. Enfin, vous vous souvenez peut-être des splendides images de manchots captées lors du film La Marche de l'Empereur.
Oui.
Ça a fait un succès planétaire mondial, en particulier grâce au succès du film aux États-Unis. Ce volatile, incapable de voler, mais excellent nageur, serait-il une des premières victimes du réchauffement climatique, de la surpêche et du tourisme polaire ? Les scientifiques argentins, là encore, tenteront de répondre en suivant les colonies de pingouins au moyen de balises et de puces électroniques, en effectuant des comptages d'individus ou encore en étudiant le contenu de leurs estomacs après les avoir fait vomir. On verra bien les conclusions de cette étude. En tout cas, autant de recherches sont menées dans des conditions extrêmes et elles nous font un peu rêver car elles fleurent l'aventure. Mais c'est essentiellement dans les décisions politiques qui seront prises contre le réchauffement climatique à l'issue de ces études que résident les enjeux de cette année polaire. Faute de quoi, Magali, elle aurait constitué un simple coup d'épée dans l'eau, fût-elle glacée.
Et oui, alors et si nos politiques ne font rien pour le réchauffement planétaire, et si les conditions de vie sur Terre n'étaient plus tenables, et si nous étions trop nombreux, et si un astéroïde entrait en collision avec la Terre, bref. Les scénarios catastrophes sont nombreux et ont fait l'objet de nombreux livres déjà ou même de films de science-fiction. Mais plus on étudie la proto-histoire de notre planète, qui s'insère entre préhistoire et histoire, et plus cette éventualité, figurez-vous, semble devenir plausible. C'est sur cette constatation que s'est basé le professeur Stephen Hawking, un des plus brillants physiciens de notre époque, pour estimer que si l'humanité veut survivre, elle devra un jour penser à émigrer sur une autre planète compatible à la vie.
Mais il n'en existe pas de telles planètes dans la proche banlieue de la Terre, donc ça veut dire qu'il faudrait partir bien loin, hors de notre système solaire.
Exactement, et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il vient d'être lancé dans l'espace, le 27 décembre dernier, la mission COROT, pour convection, rotation et transit planétaire, qui a pour but justement, Pedro, la recherche d'exoplanètes, c'est-à-dire hors de notre système solaire. Ça tombe bien. L'objectif poursuivi par COROT est d'effectuer des mesures photométriques d'une extrême précision et de longue durée, d'étoiles susceptibles d'entraîner une ou plusieurs planètes. C'est la première expérience spatiale du genre et qui va peut-être permettre de découvrir ces fameuses planètes extrasolaires telluriques, c'est-à-dire des planètes composées de roches et de matières solides, comme l'est notre Terre. Alors à ce jour, on connaît 220 objets extrasolaires, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc la liste devrait considérablement augmenter avec les travaux de les recherches de cette sonde. Et les premiers résultats sont attendus pour le printemps 2007.
En admettant qu'on trouve une planète, comment est-ce qu'on pourrait s'y rendre? Puisque, à mon avis, il faudrait presque une dizaine de milliers d'années pour traverser le système.
Exactement, et c'est ce à quoi s'est intéressé Stephen Hawking. Alors, il propose premièrement de développer l'idée de la déformation de l'espace, qui permettrait, en théorie du moins bien sûr, de se déplacer instantanément au point de désignation, quelle qu'en soit la distance, en empruntant un raccourci. Un trou de verre, sorte de vortex spatio-temporel, dont le concept reste actuellement malheureusement confiné à la science-fiction. Bon, ce serait la solution la plus rapide, mais quand même, on y travaille, hein, ça ne reste pas une abstraction. Mais l'autre solution serait de réussir à voyager à la vitesse de la lumière. Bon, déjà, ce serait pas mal. Alors pour ça, Stephen Hawking propose d'utiliser l'énergie produite par l'annihilation de la matière et de l'antimatière pour nous rapprocher de la fameuse vitesse de la lumière qui est, je vous rappelle, de 300 000 km par seconde. C'est quand même pas rien. Ce qui placerait l'étoile la plus proche à 4 années de distance. Ce serait déjà un petit peu mieux, mais un peu dur à mettre en place. Bon, en tout cas, en attendant de trouver une solution pour que l'humanité entière se déplace sur une nouvelle planète, quelques humains, comme presque vous et moi, se payent le luxe d'un séjour dans l'espace. Bon, si vous avez 21 millions de dollars à dépenser, vous pourrez effectivement embarquer. Mais alors, soyez patients, parce que toutes les places pour un voyage touristique sur la Station Spatiale Internationale sont réservées jusqu'en l'an 2009.
Et quel est le nom du prochain touriste de l'espace, Magali?
Mais il s'appelle Charles Simony. Alors le nom vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui a mis au point les programmes Word et Excel dont vous vous servez tous les jours. Donc on comprend qu'il ait de l'argent. Il sera le 5e astronaute amateur à décoller en mars 2007 et pour une durée de 6 mois. Il aura beaucoup plus de temps libre que les astronautes, évidemment. Aussi promet-il de décrire son expérience au public afin de, je cite, susciter l'intérêt des enfants pour la science. On attend donc la suite. Alors on passe maintenant à la revue de presse et on démarre local, Delphine, avec une petite actualité marseillaise.
Qui nous vient du Var plutôt, de la Seine-sur-Mer en fait. C'est un projet pilote qui tente d'associer durablement donc, le bâtiment et l'environnement en fabriquant du béton à partir de boue polluée extraite des ports de la Côte d'Azur. Donc vous le savez sûrement, notre Côte d'Azur est envahie de pneus, de métaux lourds, de peintures issues des bateaux. Et toutes ces ignominies qui flottent à la surface en fait, vont être recyclées pour être utilisées dans le BTP. Donc en gros, le béton est constitué de ciment qui sera en fait dans ce béton un petit peu recyclé, recyclable. Le ciment sera remplacé par des sédiments, donc tout ce qu'on trouve un petit peu dans les boues. Ce recyclage est d'autant plus important que ce sont des millions de mètres cubes de boue polluée qui doivent être extraits des ports européens. Et à terme, c'est un projet donc qui sera certainement utilisé aussi pour les boues de Bretagne et en Italie.
Bon, bonne initiative. Alors, on part un petit peu en Europe, Pedro, avec l'Espagne.
Oui, c'est une information qui nous provient du Muséum National de Sciences Naturelles de Madrid, la capitale espagnole donc, où des scientifiques ont découvert que les lézards mâles de montagne, de l'espèce Lacerta monticola, utilisent, figure-toi Magali, la vitamine D. Pourquoi ? Pour attirer qui ? Les femelles, bien sûr.
Évidemment.
Les expériences ont montré que les femelles sont effectivement plus attirées par les sécrétions des mâles possédant plus de vitamine D et qu'elles sont capables de détecter ces changements de taux de vitamine chez leurs congénères. Martin Lopez, c'est le nom bien espagnol de ce scientifique espagnol, donc auteur de l'étude, a émis l'hypothèse que la présence de ces vitamines au sein des sécrétions masculines est interprétée par la femelle comme un signe de bonne santé, ce qui rend ces lézards meilleurs reproducteurs aux yeux de la femelle. Parce qu'on sait bien que selon la théorie darwinienne, ce sont les femelles qui choisissent les mâles en fonction de ce qu'elles estiment être leur pouvoir reproducteur et la transmission de bons gènes qui vont permettre à leur progéniture d'évoluer et de survivre.
Évidemment.
Pour l'instant, d'après Martin Lopez, aucune fonction semblable n'a été découverte chez l'homme, mais il pense et il souhaite étudier davantage les phéromones et l'effet des hormones, comme la testostérone. En effet, la vitamine D est un stéroïde très semblable au cholestérol et à la testostérone. Donc la suite au prochain épisode, pour savoir s'il se passe quelque chose du même ordre chez les humains.
D'accord. Et Delphine, tu as aussi une actualité espagnole.
Oui, qui nous vient d'Andalousie. Une piscine municipale donc de Cazorla, qui utilise en fait pour se chauffer des noyaux d'olive. C'est un bénéfice pour l'environnement, puisqu'on utilise en fait les oliviers de cette région qui sont assez nombreux. Et puis ça permet de réaliser une forte économie en fait énergétique et monétaire voilà, pour cette piscine. Et aussi c'est un projet comme tout à l'heure.
Un geste pour l'environnement.
Génial. Donc on va changer de continent, on part aux États-Unis maintenant. La FDA, l'autorité américaine de réglementation des médicaments et de l'alimentation, a annoncé que la viande où le lait provenant d'animaux clonés peuvent être consommés sans danger.
Une grande première.
C'est quand même une grande première. Et ils vont autoriser la commercialisation de ces produits, donc à base d'animaux clonés, après, disent-ils, une période de 90 jours destinée à permettre au public de faire des commentaires. Alors justement, ce fameux public n'est pas content. D'abord parce que plusieurs sondages ont montré que 60% d'Américains s'opposaient au clonage des animaux. Du coup, de nombreux consommateurs vont faire campagne auprès des magasins pour qu'ils ne vendent pas de produits issus d'animaux clonés et pour inciter la FDA à faire machine arrière. Donc, de l'autre côté du globe, en Chine, une autre actualité qui nous apprend que pour parler la langue chinoise, on utiliserait plus la partie droite de notre cerveau, contrairement aux Occidentaux qui utiliseraient plus la partie gauche. Donc, dans le mandarin, donc la langue chinoise, il y a plusieurs possibilités de tons qui permettent de différencier clairement le sens de plusieurs homonymes qui peuvent atteindre plusieurs milliers pour certaines transcriptions. Il existe 4 de ces intonations, haute, basse, descendante, montante. C'est absent des langues occidentales et c'est cette notion qui nous rend son apprentissage difficile.
C'est un petit problème pour quand on a la toux, quand on a la grippe.
Mmh. Oui, de prononcer.
De prononcer si tu as différents tons pour chaque syllabe.
Exactement.
Tu parles pour moi pour ce matin.
Voilà, en fait, c'était ça pour ça.
Donc pour finir, justement, Pedro, une actualité qui nous vient de Grande-Bretagne.
Oui, dans la presse britannique, est parue juste avant Noël, le 21 décembre 2006, une étonnante information. Il s'agit d'une étude commandée et publiée par un cercle de réflexion. Alors ça, ce sont des experts qui se réunissent et qui produisent un travail sur un sujet donné. Et là, ils avaient travaillé sur la question suivante. L'évolution de l'intelligence artificielle, des robots, va-t-elle conduire un jour les robots à exiger certains droits ? Selon ce rapport, commandé donc par les très sérieux Office of Science and Innovations Horizon Scanning Center, le monde pourrait atteindre un véritable tournant le jour où la technologie sera suffisamment avancée pour mettre au point donc des robots capables de se reproduire, d'évoluer ou de penser par eux-mêmes. L'étude estime du coup que les robots pourraient un jour revendiquer des droits et se plaindre de leurs conditions auprès des gouvernements. En extrapolant, la société pourrait, alors il y a beaucoup de conditionnels, hein, comme vous voyez, pourrait être amené à offrir à ces machines une couverture sociale, par exemple, un droit au logement et aux soins, bref, l'ensemble des droits dont jouit normalement chaque citoyen humain, prétend le rapport. Alors tout ça fait, laisse tout de même un petit peu rêveur, d'une part par le nombre de conditionnels, et on sait quand même que les études en neurocybernétique sont encore très loin de permettre d'imaginer qu'un jour une machine puisse avoir une forme de conscience, d'autant que par exemple la conscience, on ne sait même pas exactement comment ça fonctionne chez l'homme, donc avant de l'appliquer chez les robots. Mais surtout, ce qui me semble un petit peu scandaleux dans cette histoire, c'est de commencer à imaginer, alors que 90% des humains sur la planète aujourd'hui ne bénéficient quasiment d'aucun droit, comment on va réguler le droit de ces machines. Donc en fait, on donne tout de suite le conseil aux 90% de l'humanité qui n'ont pas accès à la santé, à l'alimentation, à l'eau, ou qui sont victimes de la guerre en Irak, au Darfour ou ailleurs, de cesser d'être bêtement victimes de tous leurs malheurs et de prendre un peu d'avance, de se déguiser ou de se faire passer pour des robots et d'aller voir nos experts britanniques, voir Tony Blair lui-même et d'exiger enfin des droits bioniques.
Belle idée créative, Pedro. Et maintenant, une petite pause musicale. C'était Nicole Willis and the Soul Investigator. Donc nous passons maintenant à la chronique du mois, Delphine.
Et avec toutes ces histoires de catastrophes planétaires, la chronique du mois a décidé de suivre les conseils de Stephen Hawking et de quitter la Terre. Mais alors, en utilisant une fusée, parce que s'il faut attendre la création d'un trou de ver artificiel, elle n'est pas partie.
Merci Delphine d'être concrète un petit peu là.
Pour l'aider un petit peu, je suis allée faire un petit tour du côté des Petits Débrouillards, une association qui pratique la vulgarisation scientifique et qui propose des expériences ludiques aux 4-16 ans afin de leur faire comprendre le monde qui les entoure. Et avec deux expériences très faciles à réaliser, j'ai pu appréhender deux des principes fondamentaux pour réussir à construire un engin spatial digne de ce nom. Magali, Pedro, je vous propose de rejoindre mon cockpit et d'embarquer pour la planète science. Premier principe, une fusée doit avoir le bout du nez pointu. Pour en être convaincu, Pedro, tu as devant toi à ta disposition une feuille de papier et un livre à couverture cartonnée.
C'est exact, une BD.
C'est même BD. Un fluide glacial, on peut le dire.
Little Kevin, sans faire de pub.
La surface de la feuille, en fait, doit être inférieure à celle de la couverture pour ceux qui réalisent l'expérience chez eux, devant leur radio. Donc, pose la feuille à plat sur l'ouvrage et soulève l'ouvrage brusquement. Voilà, il découpe la feuille.
Oui, pour que la surface de la feuille soit inférieure à celle de la BD.
Exact, je suis mes conseils.
Alors, j'y vais.
Que se passe-t-il ?
Donc j'ai essayé deux fois
je et n'ai rien
je
vu
vous
décoller.
Certifie que la feuille de papier reste collée à Little Kevin, à la BD.
Essayons autre chose. Froisse la feuille de façon à créer une boule de papier. Et réitère l'expérience.
Je réitère.
Waouh !
Waouh !
Le pro du tennis.
La boule de papier s'est élevée dans les airs. Telle la fusée qui va nous emmener dans l'espace. Par contre, j'attends la suite de l'expérience. Comment on va tous monter là-dedans ? Je le refais.
Un peu dur.
Ah ouais, ça marche, il y a du tonnerre.
Eh ben, pourquoi ? À votre avis ?
Parce que c'est plus aérodynamique.
moins de résistance.
C'est exact. C'est la résistance qu'oppose l'air à la surface de l'objet qui l'empêche de décoller. Alors ici, la surface du papier est large. Donc en fait, l'air freine son mouvement d'ascension. C'est donc pour cela que l'on affine le nez des fusées afin de réduire les frottements avec l'air et de faciliter la pénétration de l'engin dans les couches atmosphériques.
Donc moi qui rêvais d'avoir une fusée en forme de requin-marteau, ça ne va pas être possible, Delphine. Tu es en train de détruire mon rêve.
C'est mort, Magali.
Bon, bah tant pis.
La seconde expérience, elle, est plus longue à réaliser, donc nous ne la ferons pas en direct, mais je vous invite à la réaliser chez vous. Elle est très marrante. Elle requiert par contre une 60aine de feuilles de papier, donc recyclées bien entendu.
Évidemment.
Et tout un week-end devant soi aussi, il faut le dire. Il faut avoir le temps, disons.
Et
pour
plusieurs
faire ce type
amis.
Motivés.
Compatissants. Vous devez rouler chaque feuille de papier de façon à en faire un cylindre qui soit de même diamètre que les autres. Et vous fixez les cylindres avec des petits morceaux de scotch. Ensuite, vous déposez les cylindres debout, côte à côte, sur un sol bien plat, donc bien serré. Et une fois que vous avez fait cela, vous déposez délicatement dessus une planche de papier cartonné. Enfin, pas de papier cartonné en fait, de bois, mais de bois très fin. Planche de bois, voilà. Alors, à ton avis, Magali, si je te demandais de monter doucement, bien entendu, sur cette construction, est-ce que tu aurais confiance en moi ? Et est-ce que tu penses qu'elle puisse supporter le poids d'un adulte ?
Alors écoute, vu comme ça, j'avoue que je suis un petit peu tremblante à l'idée de monter sur cette planche de bois. Mais bon, vu que tu m'en parles, j'imagine que ça devrait marcher quand même.
Eh bien, c'est exact. Alors peut-être à différentes reprises, parce qu'il faut vraiment monter doucement sur la planche de
bois.
Et pas
avec du papier A3, quoi.
Non.
Pas que ce soit trop haut.
Non, un petit peu solide quand même. Et puis, si vous êtes un petit peu enveloppé après ces fêtes, eh ben, vous pouvez rajouter des petits cylindres de papier. Voilà. En fait, l'ensemble que l'on vient de créer est à la fois léger et solide, comme doit être le matériau des fusées qui s'envolent donc vers l'espace. Celui-ci est d'ailleurs généralement un composite carbone Kevlar que l'on qualifie en nid d'abeille, car son agencement est similaire à celui des alvéoles d'une ruche d'abeilles, mais aussi à celui de nos cylindres de papier. Voilà, si ces expériences vous ont amusé ou intrigué, vous pouvez en retrouver d'autres sur le site web de l'association www.lespetitsdébrouillards.org ou contacter directement l'antenne PACA des Petits Deb au 04 91 66 12 07. L'ensemble de leurs coordonnées sera de toute façon communiqué sur le forum de la Grenouille.
Merci Delphine. Donc après ces expériences pratiques pour faire notre fusée, nous repartons en Amérique latine. Donc l'année qui s'ouvre sera sûrement une année révolutionnaire, politique peut-être, mais en tout cas scientifique, Pedro. Tu es avec nous donc en direct du studio marseillais pour une fois.
Pour mon plus grand plaisir.
Évidemment. Mais toujours au fait des actualités latino-américaines. Et là, tu reviens d'un colloque à Buenos Aires qui semble indiquer une révolution scientifique à venir.
Oui, une rencontre qui s'est effectivement déroulée à la mi-décembre dans la capitale argentine et dont l'objectif des centaines de participants était de définir les axes d'une politique de recherche scientifique pour le continent latino-américain pour les années à venir, mais surtout des axes d'une politique de recherche dont les retombées puissent bénéficier au plus grand nombre, car contrairement à une idée répandue, il n'y a malheureusement pas de relation directe entre l'augmentation des connaissances, la croissance économique que génère cette augmentation des connaissances et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'exemple de l'Argentine en est la preuve, comme l'avait expliqué le ministre de la Science de ce pays, Daniel Filmus. Malgré une croissance économique très rapide et un secteur industriel très dynamique depuis les années 1990, cela n'a pas fait reculer la pauvreté dans ce pays, bien au contraire. C'est dans ce contexte donc un peu incertain et morose que Lina Dominguez, la vice-ministre de la Science et de l'Environnement de Cuba, était venue partager l'expérience de son pays en matière de politique scientifique. Et elle était venue également proposer des pistes pour l'avenir. D'après Lina Dominguez, les raisons de l'impasse actuelle sont à chercher du côté des usages qui sont faits des sciences. C'est parce que cette dernière a été commercialisée dans la plupart des pays, que ses applications et retombées ont été privatisées, qu'elle ne peut plus bénéficier au plus grand nombre. Solution logique, quelque peu attendue également, avancée par la ministre cubaine, une socialisation de la science dans le sens d'une mise à la disposition de tous, volontairement et par l'appareil politique des États, de ses applications techniques et médicales.
Et alors, est-ce qu'elle a proposé des recettes concrètes ?
Eh bien oui, au rang de ces recettes, en quelque sorte, il y a tout d'abord l'alphabétisation pour tous, seule capable, je cite, de permettre qu'émergent dans un second temps les talents scientifiques individuels. Il y a également la garantie par la politique publique d'une santé et d'une alimentation pour tous, condition indispensable du progrès. Il y avait également la mise en place d'une science nationale des pays défavorisés, reposant sur la protection de leurs propriétés intellectuelles et en termes de biodiversité, afin d'éviter le pillage des ressources intellectuelles par les firmes ou les pays les plus fortunés. Et enfin, une coopération scientifique avec les pays riches, mais qui soit établie sur la base de règles justes et équilibrées, et non pas dictées par les rapports de force économiques, comme, nous le disait la ministre, c'est le cas actuellement. Alors la question que l'on peut se poser, c'est si il ne s'agit pas là d'un catalogue de mesures un petit peu utopique, voire utopique socialiste, et si tout cela est bien réaliste. Eh bien en fait, il semble que cela soit possible, puisque les chiffres plaident pour l'exemple cubain, quoi que l'on pense par ailleurs de ce pays soumis à un embargo féroce depuis 1962. Des chiffres attestés par le Comité économique et social de l'Union européenne qui indiquent que le taux de mortalité infantile est de 6,2 pour 1000 sur l'île contre 32 pour 1000 pour le reste du continent et que l'espérance de vie est de 76,5 ans à Cuba, un chiffre comparable à celui des principales puissances économiques mondiales, européennes ou nord-américaines. Du coup, à l'heure où les gouvernements de la région en Amérique latine, semble enfin se préoccuper du partage du progrès, et alors que des dirigeants progressistes ont été élus dans une majorité de pays du continent, il se pourrait bien, en juger par le chaleureux accueil réservé à Buenos Aires à Lina Dominguez, que les recettes cubaines soient peu à peu appliquées sur l'ensemble du continent.
Et sur le continent d'en face, par chez nous, est-ce qu'il y avait des représentants occidentaux, ce colloque, qui prennent un petit peu de la graine aussi de ces exemples ?
Oui, on avait effectivement le chargé des relations scientifiques de l'Union européenne, donc qui était venu jusqu'à Buenos Aires depuis Bruxelles, faire le déplacement, et simplement un peu décevant parce qu'il s'est borné à un catalogue de bonnes intentions sans annoncer de mesures un petit peu précises et concrètes qui aillent dans le sens effectivement de ces partenariats qu'exigent les pays latino-américains qui se fassent avec un bénéfice mutuel et non pas avec toujours le bénéfice pour les pays les plus puissants.
Révolution scientifique un peu fragile en Occident alors encore pour 2007. Mmh. Bon, et maintenant tu as une autre actualité, tu nous emmènes dans la forêt brésilienne, Pedro.
Oui, là où des biologistes ont découvert une nouvelle plante amazonienne présentant un important potentiel anticancérigène, ça pourrait être très intéressant. À partir du bacupari, le fruit de la Redia brasiliensis, ces chercheurs ont isolé un composé qu'ils ont soumis à de nombreux tests. Objectif, évaluer de possibles activités antimicrobiennes de cette molécule et antitumorale également. Des expérimentations ont ainsi été menées sur 9 souches de cellules cancéreuses et ont montré une activité contre 5 types de tumeurs, les ovaires, la prostate, les reins, la peau et la langue. Cette nouvelle molécule, entièrement issue de la recherche en écologie, donc, représente un espoir important, même si, rappelle le professeur Pedro Luis Rosalén, coordinateur brésilien de ce projet, une dizaine d'années de recherche sera tout de même nécessaire pour que cette substance puisse peut-être donner naissance un jour à un traitement chez l'homme. Magali.
Et pour finir, une découverte très rigolote.
Oui, enfin en tout cas inattendue, une actu que l'on pourrait intituler « Tire ta langue ». Cette découverte a été réalisée par le biologiste équatorien Nathan Muchala dans les forêts humides du sud du pays, appelées les forêts à brume. Elle concerne une chauve-souris dont la langue bat tous les records en termes de longueur relative à la taille du corps. Ce volatile, baptisé par le chercheur Anura fistulata, possède en effet une langue qui mesure une fois et demie la taille de son petit organisme. Un peu comme si Magali, quand tu sortais dans les rues et que tu passais devant une vitrine, tu tirais une langue de 3 ou 4 mètres de long. Cette découverte constitue également un bel exemple de coévolution, puisque le chercheur a montré que la taille du volatile a grandi au fil des générations, en même temps que la profondeur de la tubule d'une fleur, le Syntropogon nigricans, dont il recherche le nectar avec son organe déroulant. Bénéfice pour la fleur, la chauve-souris repart ensuite la tête couverte de son pollen, qu'elle va ensuite déposer, lors d'une suivante aspiration, sur une autre fleur, permettant ainsi la pollinisation. Et si les exemples d'association à bénéfice mutuel entre espèces éloignées sont fréquents dans le monde du vivant, c'est bien la première fois que l'on en découvre un entre une espèce végétale et une chauve-souris, Magali.
Et voilà, la nuit se fait sur la planète Étincelle. Cependant, elle continue de tourner, et d'ici le mois prochain, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org, où sont stockées les dernières émissions de 2006. Vous pouvez faire aussi un petit tour sur le forum, comme à votre habitude, pour retrouver les informations de cette émission. Un grand merci et nos meilleurs vœux à l'invisible et pourtant indispensable Bertrand Bruel qui réalise l'émission.
Un feliz año 2007 et hasta luego, amigos.
Excellente année 2007 à tous.
Nous nous retrouvons le mois prochain et d'ici là, n'hésitez pas. Rêvez de voyages spatiaux, de conquêtes cosmiques, fabriquez vos fusées. Très vite, les rêves peuvent devenir réalité.